Amici. À la rencontre de Hervé Marie, steward et ancien professeur des collèges, avec des élèves de 4e SECPA du collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine.
Bonjour monsieur Hervé Marie, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je me présente, je m'appelle Erwan, je suis élève de 4e 8.
Raphaël.
Fadil.
Clara.
Karen.
Rebecca.
Première question, pouvez-vous nous décrire votre métier en quelques mots?
Alors, en quelques mots, bonjour d'abord. Alors, en quelques mots, en fait, mon métier, c'est un monsieur hôtesse de l'air. Il n'y avait pas de mot français pour dire hôtesse de l'air, monsieur, donc on a pris le mot anglais qui est steward. Et en fait, un steward ou une hôtesse de l'air est présent à bord des avions pour que le voyage des passagers se passe le mieux possible. Donc, se passe le mieux possible dans des conditions normales, c'est d'abord que les passagers n'aient pas faim, n'aient pas soif. Donc ça, c'est la chose, si certains d'entre vous ont déjà pris l'avion, c'est ce qu'on voit les stewards et les hôtesses faire le plus souvent, c'est-à-dire servir à boire et à manger. Mais aussi, le confort, c'est la sécurité. Et ça, bien souvent, on ne le voit pas, parce qu'en général, les vols se passent bien. Donc, on ne voit pas que les stewards et les hôtesses sont là pour la sécurité des passagers. Mais je dirais que c'est ça le premier métier. Servir à boire et à manger, c'est du confort, mais la sécurité, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est le plus important. Voilà, est-ce que j'ai répondu assez ou ça va comme une introduction, ça va te va?
Oui, c'est bon.
Est-ce une passion pour vous?
Alors, une passion. Alors, très bonne question. Ça l'est devenu. Je n'ai pas rêvé quand j'avais 4 ans ou 5 ans ou quand j'étais au collège comme vous que j'allais être steward. Tout simplement parce que je savais même pas que ça existait. Donc on ne peut pas rêver de quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi j'ai pris l'avion la première fois, j'avais 20 ans et je ne savais même pas ce que c'était une hôtesse de l'air, encore bien moins un steward. Et je croyais qu'un garçon ne pouvait même pas faire ce métier. Donc vous voyez, je venais de loin, puisque je ne savais même pas qu'il y avait des hôtesses de l'air dans un avion, et encore moins qu'un garçon pouvait faire ça. Donc je ne pouvais pas en rêver. Et en revanche, quand j'ai pris l'avion, j'ai commencé à me dire « Oh, ça a l'air d'être un métier intéressant, etc. » Et puis en fait, j'ai oublié, parce que j'ai fait des études qui ne menaient pas à ça particulièrement, donc j'ai commencé à travailler. J'étais prof de français. Donc je ne pensais pas du tout être steward. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté d'être prof. Et il fallait que je cherche un autre métier. Et c'est m'est revenu à l'idée. Je me suis dit, tiens, steward, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être sympa, parce que j'aimais bien voyager. Et voilà, donc c'est plus un concours de circonstances qu'une passion à la base. Mais de faire ce métier, c'est devenu une passion. Une fois que j'ai commencé, vraiment c'est devenu une passion.
Quels sont les moments où vous avez envie de le pratiquer?
Ah, à quel moment? Eh bien, écoute, j'ai eu envie de faire ce métier déjà quand j'ai dû chercher un nouveau métier, puisque comme je t'ai dit plus tôt, j'ai arrêté d'être professeur, donc il fallait que je trouve un autre métier. Pendant quelques temps, j'ai travaillé dans le tourisme, en fait. Et c'est aussi de travailler dans le tourisme et d'aller souvent dans les aéroports avec mes clients, où j'ai vu des stewards, j'ai vu des hôtesses, j'ai vu des pilotes. Et d'être dans les aéroports, ça m'a donné l'envie de moi-même faire ce métier. Voilà, c'est venu petit à petit en fait.
Vous avez toujours exercé ce métier durant toute votre carrière?
Non, comme je te disais, donc d'abord, j'ai fait des études. J'ai fait des études qui ne menaient pas du tout au professorat normalement. Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de... Vous voyez, j'ai pas une ligne droite. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait une ligne droite, j'ai toujours fait un peu des zigzags. Donc j'ai fait des études de commerce, en fait. Donc j'aurais dû travailler dans le commerce. Bon, et finalement, j'ai pas du tout travaillé dans le commerce. J'ai été professeur de français. Et puis après, comme j'aime bien le changement, j'ai travaillé dans le tourisme. Et après, je suis devenu steward. Et là, je suis resté le steward. Une fois que j'ai commencé... Comme il y avait une question sur la passion, la preuve que ça devait être la passion, puisque c'est le seul où je suis resté très longtemps. Donc voilà.
Quels sont les parcours scolaires?
Alors, mon parcours scolaire, donc, j'ai d'abord été au collège, évidemment. Ensuite, au lycée, j'ai fait un bac scientifique. Alors que, vous voyez, je vous parlais de zigzag, vous allez voir, j'avais vraiment fait des zigzags. J'ai fait un bac scientifique, donc normalement, j'aurais dû faire des études scientifiques. Eh bien non, j'ai fait des études de commerce. Et après les études de commerce, comme je vous ai dit, j'ai été professeur de français. Donc, vous voyez, j'ai pas un parcours très droit.
Quelles sont les qualités et les compétences pour exercer ce métier?
Alors, pour être steward ou hôtesse, alors je vais vous donner un nouveau terme que je n'ai pas encore utilisé. Parce que si on dit à chaque fois hôtesse et steward, ça fait long. Donc en fait, on a inventé ce qu'on appelle un acronyme, ça veut dire des lettres, pour chapeauter le mot hôtesse et steward, on dit personnel navigant commercial. PNC. Ok, PNC, ça veut dire hôtesse ou steward. Comme ça, on n'est pas obligé à chaque fois de dire donc. PNC, c'est personnel navigant commercial. Donc, pour être PNC, eh bien, écoute, je pense que la plus grande qualité, c'est d'aimer les contacts humains. Parce qu'on travaille toujours avec des êtres humains. Hein. Les passagers, on est toujours avec des passagers. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas les êtres humains ou qui est un peu renfermé ou qui n'aime pas être entouré de beaucoup de gens, il vaut mieux pas qu'il fasse ce métier-là. Donc, aimer les gens, aimer aider les gens, parce que tu les aides toujours, même quand tu leur sers à manger ou à boire, c'est pour les aider, pour qu'ils se sentent mieux, avoir envie que les gens se sentent bien. S'adapter aussi, parce que quand tu travailles avec des personnes, avec des humains, quand tu travailles avec des gens, les gens sont tous différents, tous. Parce que nous, en tant que steward, on a des clients des pays du monde entier. Et il y a des cultures différentes. Donc il faut s'adapter à chaque culture. Et donc l'adaptabilité, le sens du contact avec les êtres humains. Et puis aussi les langues vivantes, évidemment. Parce que pour parler... Alors, l'anglais, c'est la langue internationale. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais tout le monde ne parle pas anglais. Donc... Si tu as des notions aussi d'autres langues, bah ça peut aider, parce que même si tu ne parles pas très très bien la langue, bah ça peut aider pour communiquer au moins. Voilà.
Vous avez appris des choses dans un métier qui vous a servi dans le métier suivant?
Alors, est-ce que j'ai appris des choses, tu veux dire dans mon premier métier, est-ce que ça m'a des choses que j'ai apprises pour devenir steward? Ben écoute, oui, je pense que quand j'étais professeur de français, ben c'est pareil, je travaillais avec des élèves, donc des êtres humains. Hein, donc c'était être professeur et élève, c'est des relations humaines. Hein, et ben j'ai les relations humaines que j'ai apprises, dont j'ai appris en étant prof, ça m'a été pour être steward, parce que je voyais, c'est toujours de la relation humaine, toujours.
Ce métier était-il difficile ?
Assez, oui. Évidemment, si vous regardez des films ou des séries, vous verrez les hôtesses et les stewards au bord de la piscine à l'hôtel. Ça, c'est vrai, c'est un aspect du métier. Hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. On a des escales où on est au bord de la piscine. C'est l'hiver en Europe. Ben nous, on est tranquille, on est à Rio, sur la plage à Rio. Il y a pire. Mais ça, c'est qu'un aspect du métier. Ça, c'est l'aspect glamour, on va dire. Mais il y a l'aspect à bord, et c'est dur, parce que quand on fait un vol de 12 heures, c'est long, 12 heures d'affilée. Vous voyez, vous allez à l'école, vous commencez quoi, à 9 heures le matin, c'est ça? Et puis après, vous faites une pause pour déjeuner, puis vous rentrez chez vous vers 17 heures, 18 heures. Bon, ben là, quand on fait une journée de 12 heures, c'est comme si on commençait à 8 heures du matin et qu'on finissait à 20 heures, non-stop. Et puis ça, c'est le temps du vol, mais il y a la préparation avant. Et puis, quand les passagers ont débarqué, on fait encore des choses à bord. Ça fait des fois des journées de 15 heures. C'est très long, c'est très dur. Et puis, il y a les vols de nuit. Quand on travaille la nuit, c'est beaucoup plus dur. Si vous connaissez des gens qui travaillent de nuit, ils vous le diront tous, que travailler la nuit, c'est beaucoup plus dur que travailler le jour, parce que on est des êtres diurnes, comme on dit. C'est des gens qui vivent la jour, normalement. Et c'est pas naturel pour les êtres humains de travailler la nuit. Donc, c'est dur, faut lutter. Et puis, il y a les décalages horaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un décalage horaire, mais par exemple, il y a 6 heures de décalage avec New York, par exemple. Là, je ne sais pas, il est 14 heures et quelques. Il est que 8 heures du matin à New York. Donc quand vous arrivez après un vol, par exemple vous avez décollé à 10h du matin de Paris, il y a 8 heures de vol pour aller à New York, vous arrivez à 18h en heure de Paris, mais vous en retirez 6 avec le décalage. Donc il est que midi à New York. Et il faut continuer comme ça sa journée, alors que pour vous, pour votre horloge biologique, il était comme s'il était 18h, mais à l'arrivée, il est midi. Et c'est dur, il faut lutter, c'est très dur. Voilà.
Est-ce que pendant vos scans, vous pouvez sortir visiter la ville?
Ah ben, bonne question, tu vois, j'ai commencé à y répondre. Oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, ça dépend des escales. Parce qu'il y a des escales, malheureusement, dans des pays où c'est pas très sûr. Hein. Il y a des fois, il y a des problèmes, des problèmes sociaux, des manifestations dangereuses, ou même des pays qui sont presque en guerre, etc. Là, évidemment, on a interdiction de sortir de l'hôtel, parce que c'est trop dangereux. Et puis, il y a des pays où tout se passe bien. Une fois que tu as fini ton travail, c'est-à-dire que tu es arrivé à l'hôtel, je ne sais pas, peut-être tu as une escale de 2 jours, et on te dit, bon, rendez-vous dans 2 jours à 15h pour retourner à l'aéroport pour le vol retour, mais entre maintenant et dans 2 jours à 15h, tu fais ce que tu veux. C'est comme si tu étais des petites vacances.
Y a-t-il une évolution possible dans ce métier?
Oui, exactement. Très bonne question. Tout le monde commence comme steward ou hôtesse. Ensuite, au bout de quelques années, il y a un concours pour devenir chef de cabine. Donc chef de cabine, ça veut dire chef d'équipe en fait, puisque la cabine, c'est là où il y a les passagers. Le cockpit, c'est là où il y a les pilotes. Et nous, on travaille dans la cabine. La cabine, c'est là où il y a les passagers. Donc au lieu de dire chef d'équipe, on dit chef de cabine. C'est le chef de l'équipe en fait, des stewards et des hôtesses. Et ça, c'est valable sur les petits avions. Parce que sur les avions long courrier, ceux qui vont à New York, ceux qui vont à Rio, ceux qui vont à Shanghai, c'est des gros avions. Donc là, il y a deux chefs d'équipe. Il y a le chef de la classe économique, le chef de la classe affaires, et au-dessus d'eux, il y a un super chef qui s'appelle chef de cabine principal. Donc tout ça, c'est des échelons qu'on gravit et l'évolution de la carrière.
Vous sentez-vous valorisé par ce métier?
Alors, dans l'ensemble, oui. Mais c'est comme tous les métiers. Quel que soit le métier qu'on fait, quel que soit le métier qu'on fasse, je crois, on doit dire d'ailleurs, il y a des fois on se sent valorisé, et puis des fois on ne se sent pas trop valorisé. Parce que des fois on a des bonnes journées, et puis des fois on a des moins bonnes journées. Et le jour où on a une bonne journée, on se sent très valorisé. Et puis le jour où on a une mauvaise journée, on se sent beaucoup moins valorisé, évidemment. Mais dans l'ensemble, si on me disait aujourd'hui, est-ce que tu veux faire ce métier, je dirais oui. Donc je pense que je me suis senti valorisé. Et valorisé par qui? Pas spécialement par tes chefs. Les chefs, c'est important. Ça, ils te disent oui, tu as bien travaillé aujourd'hui ou tu as mal travaillé. Ça, c'est comme ça. Mais c'est par les passagers, en fait. Et quand toi, tu as fait la différence d'un voyage moyen où le passager, il aurait voyagé dans de bonnes conditions, mais voilà, il est arrivé à destination et puis c'est tout. Et le jour où le passager ou la passagère te dit « Ah, grâce à vous, monsieur, j'ai passé un très bon voyage parce que tu t'es bien occupé d'elle, parce que tu t'es bien occupé de son enfant, parce que quand elle avait un besoin de quelque chose, tu as répondu présent et tu étais très attentif. » Quand c'est le passager qui valide le voyage, là, tu te sens très valorisé.
Vous avez un exemple où les passagers ont dit que vous aviez bien travaillé?
Oui, plusieurs, heureusement, parce que heureusement pour moi, mais merci de la question, oui, oui. Alors, écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire? Oui, bah, des passagers, par exemple, souvent des mamans, tu vois, des mamans qui voyagent toutes seules avec leurs enfants. Des fois, elles ont un petit bébé, et puis elles ont 2 enfants. C'est pas toujours facile à gérer toutes seules. Et là, c'est ton métier de PNC, de personnel navigant commercial, de les assister. Tu vois, par exemple, une petite différence, tu vas servir les plateaux aux enfants d'abord. Comme ça, les enfants peuvent manger d'abord. Et puis la maman, une fois qu'ils auront mangé, la maman, elle mangera tranquillement. Parce que si tu donnes les plateaux à tout le monde en même temps, la pauvre dame, il y en a partout, elle ne peut pas manger. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui font la différence. Et les passagers, voilà, ils te le disent. Et ça, c'est valorisant.
Vous avez un concours, un examen pour faire ce métier?
Oui. Alors, il y a un diplôme d'État, comme le bac, comme le brevet des collèges, comme le bac. Il y a un diplôme d'État. Il y a un programme, comme pour le bac ou le brevet des collèges. On doit apprendre des choses sur l'aviation civile, sur les avions, sur la sécurité, le sauvetage à bord, etc. C'est un stage, on fait un stage d'un mois à peu près, intensif, et puis à la fin, il y a un examen d'État, on passe l'examen, soit on le passe, soit on le réussit, soit on ne réussit pas, mais si on le réussit, on a ce fameux diplôme, et ensuite, une fois qu'on a ce diplôme, on peut poser sa candidature dans les différentes compagnies aériennes.
Quels étaient vos horaires de travail?
Ah, bonne question. Alors, très variable, tu imagines bien, hein, parce qu'il y a des vols tout le temps, toutes les journées. Là, il ne s'agit pas de dire bah, c'est dimanche, je ne travaille pas, ou c'est Noël, je ne travaille pas, ou c'est, je sais pas, le 14 juillet, je ne travaille pas. Non, là, nous, on travaille 365 jours par an. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de jour de repos, hein, attention. Hein. Mais on travaille tous les jours. On peut travailler tous les jours. Et comme il y a des vols tout le temps, c'est 24 heures sur 24, puisque quand tu fais par exemple un Paris-Rio, en général il décolle à 23h30, bah, tu décolles à 23h30 de Paris et tu travailles toute la nuit, et tu arrives à Rio, bah, c'est le matin évidemment, ou même presque le début d'après-midi d'ailleurs. Et donc les horaires c'est très variable, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être en semaine, le week-end, les jours fériés.
Mais en fait vous habitez toujours loin de votre lieu de domicile?
Tu veux dire du lieu de travail,
ouais, travail.
Alors, encore une bonne question, très, très intéressante. Dans l'idéal, évidemment, moi c'est le choix que j'ai fait, j'habitais pas loin de l'aéroport. Parce qu'au moins, comme ça, j'avais pas beaucoup de trajets pour me rendre à... J'étais basé à Roissy-Charles de Gaulle, moi. J'ai toujours été basé à Roissy-Charles de Gaulle. Donc j'habitais pas très loin de Roissy-Charles de Gaulle pour pouvoir aller à l'aéroport facilement. Mais certains de mes collègues avait fait le choix d'habiter dans des villes de province où il y a un aéroport. Il y en a qui habitaient aussi bien à Nice ou à Biarritz ou à Bordeaux. Et en fait, ils prenaient un avion comme passager avant de prendre l'avion pour travailler. Donc ça, c'est un choix qui demande beaucoup, beaucoup d'organisation quand même. Mais il y en a qui habitaient en province, oui.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exerciez? Et avant?
Beaucoup. Et, oh oui, beaucoup, exactement. Alors déjà, tu vois, par exemple, maintenant, aujourd'hui, chaque hôtesse et chaque steward a un iPad. Parce que, comme ça, ça permet d'avoir la liste des passagers. Ça permet plein d'autres choses. Mais entre autres, d'avoir la liste des passagers avec leur numéro de siège. Donc comme ça, quand on s'adresse à quelqu'un, on sait son nom, etc. Bon, moi, quand j'ai commencé, l'iPad n'existait même pas. Donc tu vois déjà la différence. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait que le chef de cabine qui avait la liste des passagers. Et c'était des grandes feuilles de papier super longues. Parce qu'il y avait, quand il y a 350 passagers, ça fait quand même une longue liste de papier. Et maintenant, c'est un iPad. Mais ça, c'est une des nombreuses évolutions. Sinon, dans le métier en tant que tel, bah, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans le sens où on sert toujours à boire, on sert toujours à manger, on est toujours là pour la sécurité. Dans le métier lui-même, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais c'est dans l'environnement, en fait. Parce que, bah, comme partout dans le monde, il y a de plus en plus d'informatique. Internet n'existait pas quand j'ai commencé. Bah, maintenant, il y a Internet à bord des avions. Donc, le métier, non, n'a pas vraiment évolué. L'environnement a beaucoup changé. Voilà.
Y a-t-il des risques?
Oui. Alors, j'imagine que vous pensez directement bah, aux accidents d'avion. Hein. On en entend parler à la télé ou à la radio. Enfin bon, quand il y a des accidents d'avion, bah, c'est grave, évidemment. Alors, ça, c'est le risque majeur, on va dire, celui qu'on craint tous, évidemment. On n'y pense pas tout le temps, parce que sinon, on ne ferait pas ce métier. Mais on y pense, quand même. Mais, en fait, il y a d'autres risques auxquels vous, les passagers ou les gens qui veulent prendre l'avion un jour, vous ne pensez pas, c'est par exemple les accidents à bord, parce que, comme je veux dire, on pense toujours aux accidents de l'avion, mais il y a aussi des accidents dans l'avion, par exemple des turbulences. Vous savez ce que c'est des turbulences? Quand l'avion bouge beaucoup, si on n'est pas attaché, on risque de se blesser très fort. Et moi, j'ai vu des collègues à moi, alors moi, j'avais la chance de ne pas être dans l'avion à ce moment-là, mais des collègues qui se sont cassés des membres parce qu'il y a eu des turbulences sévères très subites. Et en fait, ils ont été projetés contre des sièges ou projetés contre un meuble et ils ont eu des fractures. Et ça, c'est un des risques. Et puis, on peut se blesser dans ce métier parce qu'on manipule beaucoup de choses. Quand on prépare les repas, etc., on manipule des charges très lourdes. On peut se faire mal au dos, etc. Donc oui, il y a des risques.
Vous-même, vous avez déjà un accident de travail?
Alors, est-ce que j'ai eu un accident de travail? Alors, rien de grave, mais j'ai eu souvent mal au dos. Pour te donner un ordre d'idée, par exemple, tu sais, quand on sert les repas, tu sais, c'est sur des chariots roulants. Un chariot roulant, comme ça, quand il est plein, il pèse 80 kg. C'est lourd, quand même, 80 kg. Et quand on est sur des vols assez courts, ils sont stockés pour le décollage, hein, c'est sécurisé pour ne pas blesser, justement, pour ne pas se blesser. Et sur des vols courts, on doit les sortir alors que l'avion est encore en train de monter. Donc on fait un effort sur le bas du dos, et moi, je me suis fait très très mal au bas du dos, assez régulièrement, oui. Mais j'ai pas eu d'accident grave, mais j'ai eu des pathologies, on va dire. Pas des blessures, mais des pathologies assez importantes.
Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de vol?
De vol? Ah, des problèmes de vol, oui, pardon. Alors, quand j'étais à bord?
Oui.
Oui, alors celui dont je me souviens le plus spectaculaire, on va dire, c'est j'ai vécu une dépressurisation. Alors une dépressurisation, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que vous savez que l'air à bord d'un avion, il est pressurisé. Parce qu'on vole tellement haut, un avion vole tellement haut, qu'on n'aurait pas assez d'oxygène. Si c'était comme dans une voiture où on baisse la vitre, et ça fait zéro différence. Un avion, ça vole tellement haut qu'on ne peut pas baisser les hublots parce qu'on n'aurait pas d'oxygène pour respirer. C'est impossible. À l'altitude où on vole, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, pour que les passagers et les membres d'équipage puissent respirer, on pressurise l'air, on appelle ça. On pressurise l'air pour qu'il y ait une atmosphère respirable comme dans la salle de classe ici. Mais il peut y avoir des problèmes de pressurisation. Donc, il peut y avoir un hublot qui se casse. Ça peut arriver, ou un hublot qui se fendille un petit peu. Même s'il est fendillé, il y a une fuite. Et le problème, c'est que la pressurisation marche moins bien et qu'on respire de moins en moins bien. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Vous avez déjà vu certainement dans les films ou dans les séries, quand les masques à oxygène tombent, c'est pour ça, justement. Si la pressurisation marche mal, hop, on met les masques à oxygène. Et pas de problème. Sauf qu'on ne va pas rester comme ça pendant 12 heures. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'avion redescende une altitude où on peut respirer normalement. Et en gros, l'altitude à laquelle l'avion va descendre très rapidement pour qu'on puisse respirer normalement, c'est l'altitude d'une station de ski, en gros, 1800 mètres. Et la plupart des stations de ski, c'est 1800 mètres. Et là, on respire normalement. Sauf que l'avion, il est à 10 000 mètres et il faut qu'il descende à 1800. Vous voyez la différence? Et ça, en quelques minutes. Donc, je peux vous dire que c'est le pire roller coaster. Là, le parc Astérix et Disneyland, ils peuvent s'accrocher. Là, on descend comme ça. Hein. Et c'est très, très impressionnant. Et ça, je l'ai vécu et c'est très impressionnant. Voilà.
Est-ce que vous prenez des apprentis?
On n'appelle pas ça des apprentis, mais oui, on prend des alternants, on appelle ça. Tu sais, des gens qui sont à moitié à l'école et à moitié du temps steward ou hôtesse. Oui, on prend des alternants.
Quelle tâche donnez-vous à vos alternants?
Ah, très bonne question. Alors, les alternants, ça c'est une très bonne question. Parce que je t'ai dit, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait le service qu'on appelle le service hôtelier, c'est-à-dire donner à boire et à manger. Et après, il y avait toutes les tâches de sécurité et de sauvetage. Les alternants, eux, ne font que du service hôtelier. Ils ne servent uniquement boissons et nourriture. Il ne s'occupe pas du tout de la sécurité du sauvetage, parce que pour ça, il faut avoir le fameux diplôme dont je vous parlais. Et eux, ils ne l'ont pas en général.
Êtes-vous satisfait de votre stagiaire en général?
Oui, oui, ils sont très motivés. Très motivés. C'est des jeunes qui veulent faire ça depuis longtemps, souvent, donc il n'y a aucun problème.
Vous attendez quoi d'eux?
Eh bien, écoute, ce que j'attends d'eux, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les qualités qu'il faut avoir, c'est-à-dire des gens qui sont tournés vers les autres. Il faut vraiment être tourné vers les autres gens, aimer faire plaisir aux gens, aimer les aider, être disponible et parler bien l'anglais.
Conseillez-vous ce métier aux jeunes?
Oui, oui, bien sûr que je recommande ce métier aux jeunes, oui, bien sûr. C'est un métier qui, moi, m'a permis de voyager quasiment dans le monde entier. Avant de faire ce métier, moi, je crois que j'avais pris l'avion peut-être 3 fois, je crois. Et depuis, je l'ai pris des milliers de fois. Moi, je suis typiquement le cas de quelqu'un qui connaissait quasiment rien avant de faire ce métier. Et maintenant, je ne dis pas que je connais tous les pays du monde, ça c'est impossible, mais j'en connais quand même pas mal. Et puis, tout à l'heure, tu sais, je te disais, il faut aimer les gens quand on fait ce métier. Et j'ai découvert des pays, évidemment, mais pas uniquement les pays, mais les gens qui habitent dans ce pays. Parce que c'est bien de visiter des pays, mais de rencontrer d'autres gens, ça c'est encore mieux.
Merci Monsieur Hervé-Marie d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur certaines choses pour notre émission Compteur des métiers.
Je peux poser quelques questions?
Oui, bien sûr.
Bon, moi je veux vous dire déjà, je suis très impressionné par le niveau de vos questions, qui vraiment, quand j'ai dit c'est des questions intéressantes, c'était pas juste comme les hommes politiques à la télévision qui disent « Ah, c'est une question très intéressante ». Non, non, moi c'était sincère. Donc je voudrais savoir comment vous y êtes pris pour écrire les questions. Est-ce que les adultes vous ont aidé ou vous ont guidé, ou comment vous y êtes pris?
On lève la main pour répondre. Maman, je te
parle. Erwan.
On l'a fait en groupe. Chacun a proposé ses idées. Et on s'est concerté, on s'est dit oui, ça pourrait aller.
Très bien. Et c'était des questions. Vous saviez avant que j'arrive quel métier je faisais, je suppose. Est-ce que c'était des questions qui étaient est-ce que c'était des questions qui étaient du coup orientées vers mon métier, ou est-ce que c'est des questions plus générales qui peuvent être pour d'autres métiers, par exemple?
C'était pour d'autres métiers aussi en général. Enfin.
Très bien. Non, parce que je trouvais que. Effectivement, parce que je les revois là sous les yeux, c'est des questions qui peuvent évidemment correspondre à d'autres métiers, mais je trouve que pour mon métier en particulier, c'était des questions très pertinentes.
Merci.
Merci à vous. Hein.